Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 175, ici Richard Delhomme. Alors avant d'aller plus loin, inutile de m'écrire pour me dire que l'épisode 172 n'existe pas, je sais, et c'est une fausse manip de ma part que je ne corrigerai pas et je m'autorise cette petite fantaisie. Voilà, le podcast est de retour après un bon mois d'absence dû à la création du numéro 5 de Planète Gravel en kiosque vers le 15 mars. Et avant de repartir au charbon, je vais accumuler quelques épisodes pour ne pas vous laisser en rade et surtout continuer à vous amener ces témoignages et ces athlètes. Et ces athlètes. Ponctuation, points à la ligne. Aujourd'hui, je parle avec Thomas Bourri, prochainement avec Louise Averner, ce soir même pour être tout à fait précis, et sa victoire sur l'Atlas Mountain Race, Miguel Tapiapardo, lui aussi sur l'AMR, Guillaume Klein sur le régime Seto et pourquoi c'est une énorme connerie, un épisode sur « Faut-il se priver de prendre l'avion ?» avec un éminent spécialiste et tenez-vous bien, qui n'est pas un simple blogueur avec des opinions, et tant d'autres, je l'espère, et je me suis souvenu tout à l'heure de Patrick Miette, qui est actuellement en Ukraine, qui a rallié Paris à l'Ukraine au mois de décembre, et qui m'a dit « Non, je ne peux pas, je suis reparti en Ukraine, mais peut-être que si j'ai un créneau une journée en Ukraine, on fait l'épisode. » Donc je croise les doigts, et tant qu'il est encore en vie, espérons refaire un épisode. Donc Thomas Bourri, parlons-en. Thomas n'est pas un inconnu puisque j'ai déjà réalisé un épisode avec lui cet été. Sauf que là, nous allons parler de l'approche mentale de la longue distance, de l'ultra et de son recours à une coach mentale. Alors pour mémoire, Thomas, nous avions parlé de son FKT, donc le meilleur temps connu sur la GTMC, donc la grande traversée du Massif Central, qu'il a réalisé en single speed. Et donc pour réaliser cette performance notable, il a eu recours à une coach mentale. Donc nous allons parler de pourquoi une coach mentale, pourquoi faire, pour qui, est-ce pour tout le monde, que signifie performer dans nos disciplines ultra, et encore plus rigolo, a-t-on le droit d'abandonner? Et avant de laisser la parole à Thomas, je vous préviens, et Thomas, je te préviens également que je vais couper Thomas plus souvent que d'habitude, même si je déteste cette pratique, je sais que Thomas parle. Donc, je vais être obligé. Et en plus, sincèrement, ça me fera un très bon échauffement pour l'épisode avec Miguel, parce qu'il parle encore plus. Donc, bonjour Thomas.
Salut Richard, merci de cette présentation.
C'est vrai, on peut le dire, tu parles, parce que la dernière fois qu'on s'est appelé, il y a environ un mois et demi, tu parlais, et tu as une petite tendance même à revenir sur tes idées et à tourner en boucle.
Eh ben écoute, donc, je crois que c'est... Je dois vieillir, ça doit être ça.
Donc je suis désolé de te le dire aussi frontalement, ça c'est mon côté extrêmement diplomate. Voilà, mais ça n'enlève rien à ton charme, et surtout à ton charme forestier avec ton pull et ton bonnet de marin. Ça te scie à merveille. Bon, Thomas, est-ce qu'on peut replacer le contexte de la GTMC, s'il te plaît? Pourquoi, quand, comment?
Donc la GTMC...
Pour les malheureux qui n'ont pas la chance de te connaître.
Ok, donc l'année dernière, donc en 2022, j'ai réalisé la traversée du Massif Central qui part de Avallon jusqu'au Cap d'Aille en VTT sur un itinéraire donc qui fait 1400 km à peu près. J'ai réalisé cela au mois de C'était fin juin, début juillet, donc 2022, avec le film Momentum qui est sorti début janvier sur la page YouTube de mon sponsor principal, Kona, et qui raconte l'histoire effectivement de ces 6 jours et 36 minutes que j'ai passé sur cette trace. Ce projet, il intervient comme le premier point de ma saison 2022, après une saison 2021 qui a été ponctuée de succès et aussi de remise en question, on dira, puisqu'il n'y a pas de, j'ai pas le sentiment d'avoir eu de gros échecs, même si j'ai abandonné en 2021 sur la Tout Volcano. On pourra parler de la notion d'échec après.
Ben c'est ça,
Voilà un peu
c'est de ça dont on va parler.
le cadre un petit peu de cette GTMC. L'idée, c'était de revenir, donc, plutôt que d'être sur un format de course, de revenir sur un projet plutôt personnel qui remette au cœur de la démarche bah, la passion du vélo et la passion que j'ai pour la pratique du vélo, avant même de celle de pratiquer la compétition, qui est un élément important, mais qui avait besoin, à mon sens, de basculer en second plan voilà, de revenir un peu aux fondamentaux.
Alors, je
Voilà
te
le
coupe.
contexte.
Cut numéro 1. Le film Momentum sera en description de cet épisode sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Alors, je vais couper WhatsApp parce qu'en fait, je le rallumerai, mais tout à l'heure, j'ai demandé si on a un groupe WhatsApp. Je vous en reparlerai. Bah oui, tiens, je mettrai aussi l'adresse du groupe WhatsApp dans la description. Et j'ai demandé aux membres de te poser des questions. Donc j'ai des questions qui n'ont rien à voir, en fait. Donc les gars sont complètement nazes. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. On choisit pas toujours. Toujours est-il que le film a été fait par Ryan Le Garec, l'immense Ryan Le Garec. Qui avait déjà fait les photos et dont vous avez eu un portfolio dans le numéro 4 de Planète Gravel, qui aurait dû être dans le numéro 3 si j'avais été bon, mais manque de bol, ça a été dans le numéro 4. Et pour la photo de couverture de cet épisode, je vais encore être obligé de lui piquer une photo. Donc je mettrai aussi la chaîne YouTube de Ryan dans la description et je vous encourage vivement. Mais vraiment vivement à aller voir les dernières vidéos de Ryan, notamment un truc gravel qu'il a fait au Portugal et on le voit au bord de la défaillance absolue. Et là, il appelle son pote Josh Ibbett pour qui il réalise également des films extraordinaires. Josh Ibbett, légende vivante de notre sport. Et là, Josh lui dit t'as envie d'abandonner, c'est normal, t'es en train de toucher du doigt l'essence de l'ultra et du bikepacking. Donc maintenant, il faut pas s'arrêter, il faut repartir. C'est normal d'avoir ce genre de sentiment. Donc vraiment, les films de Ryan, esthétiquement et en termes de montage et en termes de narration, je vous les recommande vivement. Fin du cut numéro 1.
Je valide à
T'es d'accord
100%.
avec ça? T'es d'accord avec ça?
Je valide à 100% et c'est pour ça que j'étais ravi de partager cette aventure avec Ryan, avec qui je continue d'échanger et c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un personnage.
C'est un ourson. C'est un ourson. Un ourson de grande taille, de grosse taille, mais un ourson absolument adorable. Et j'avoue être. Et j'arrête pas de lui dire à chaque fois qu'on s'écrit, je lui dis, putain, je vais te piquer toutes tes idées en montage parce que j'adore. Et il m'a dit, bah c'est pas grave parce que je vais changer de style. Donc j'ai encore moins de scrupules à lui piquer ses idées parce que c'est génial. Donc maintenant, la GTMC. Pourquoi avoir eu recours à une coach mentale? Allons-y frontalement. T'es pas un débutant, t'es pas entre guillemets, t'es pas un amateur, t'es relativement équilibré dans ta tête, de ce que j'en ai compris. Pourquoi avoir recours à une coach mentale pour quelque chose, pour un projet perso?
Pour mettre un peu le contexte de la démarche, donc je travaille avec une personne qui s'appelle Anne Fourier, qui a une structure qui s'appelle Happy Perf, qui travaille déjà avec des athlètes de haut niveau dans l'univers du trail running. À la base, j'ai engagé cette démarche fin 2022 dans un contexte qui était plus professionnel que sportif, c'est-à-dire que cette Anne a la casquette, la double casquette d'accompagner des managers, des dirigeants d'entreprise, etc. Et de faire du coaching mental. Et le premier point de contact, il était d'un point de vue professionnel où j'avais besoin effectivement de retrouver un peu un équilibre. qui était aussi très lié avec l'équilibre que j'avais dans ma pratique sportive. Et puis, je savais qu'en second plan, je souhaitais engager une démarche autour de, en tous les cas, du développement de l'aspect mental. Et c'est comme ça que s'est nouée notre collaboration, donc fin d'année 2022. Pourquoi engager une démarche sur l'aspect mental? J'étais déjà convaincu avant même de prendre contact avec Anne que un des leviers les plus importants à actionner pour être mieux dans ses baskets, être mieux dans sa performance, ou en tous les cas aller chercher un niveau de performance plus important, au-delà de l'entraînement physique, de mettre en place des intervalles, d'avoir un entraînement structuré sur le vélo, d'avoir de la préparation physique, etc. C'était et c'est travailler le muscle du cerveau qui est, à mon sens, aujourd'hui, et d'autant plus sur des formats d'ultra-endurance, je dirais l'élément central, voire le plus important en fait en termes de ratio. Si aujourd'hui on devait quantifier la performance sur un effort d'ultra-endurance, alors peut-être sur des formats de 1000 km, la partie physique, physiologique reste encore importante, mais la partie mentale, et d'autant plus sur des formats plus longs comme celui de la GTMC, où on part pour 5-6 jours d'aventure, et prépondérante avec, je pense, 50% qui se jouent à minima dans la tête, dans le bien-être, avant même d'avoir un gros moteur, comme on dit, en vélo.
Alors, que se passait-il à l'époque où tu as débuté cette relation avec Anne? Sans rentrer dans les détails, que se passait-il? Ça me fait repenser que la dernière fois qu'on a discuté, je t'avais demandé si tu avais été sodomisé par ton oncle quand tu étais jeune, et tu m'as dit non, non, tout va bien. Donc voilà.
Donc pour remettre un peu refaire le fil, donc je commence l'ultra-endurance en 2021, en tous les cas la compétition sur l'ultra-endurance en 2021 avec le Biking Man France, et ça se passe bien puisque je finis deuxième à ce moment-là, avec un temps qui, par rapport à ce que j'avais vu sur les autres performances d'autres courses, d'autres athlètes, était quand même intéressant. Et laisser présager de belles choses par la suite. Et donc, quand ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, on en veut tout de suite plus. Et donc, je m'inscris par la suite à la Tout-Volcano donc fin 2021, en octobre 2021, avec à ce moment-là un plateau d'athlètes qui était vraiment incroyable, avec tous les plus grands noms de la
C'est
discipline.
l'année où Ulrich, Omar ont décidé d'abandonner parce qu'ils n'aimaient pas la pluie, c'est ça?
Exactement, il a fait très froid et a beaucoup plu la première nuit, et effectivement, il était peut-être parti un peu léger. Et donc, dans ce cadre-là, je pars sur la Tout-Volcano, dans un contexte à côté professionnel qui était chargé et un peu complexe à gérer. Et je décide à la mi-course d'arrêter, d'abandonner la Tout-Volcano, parce que je me sens pas bien. Je me sens pas bien mentalement. Je me sens pas bien dans mes baskets. J'ai pas du tout envie d'être sur mon vélo. J'ai envie d'être tout sauf sur mon vélo. Et je pense que l'envie sur ces formats d'ultra en distance et avoir des bonnes motivations, c'est un élément clé pour aller au bout. Et puis surtout le prérequis en fait, c'est se faire plaisir. Et donc je décide d'arrêter, alors que si on regarde d'un point de vue performance, ou en tous les cas à ce moment-là, j'étais encore bien positionné dans le classement. Il n'y avait pas
Tu étais
effectivement
cinquième,
de
je crois.
ouais quelque chose comme ça, je crois entre 4 et 6, et ça allait finalement. Mais le plus important, c'est moi je sentais que ça allait pas à l'intérieur, j'avais pas le petit feu qui brûlait, et j'ai préféré arrêter. Et donc à la suite de ça, j'ai remis en cause pas mal de choses sur l'équilibre entre le professionnel et le perso, puisque d'un point de vue professionnel, ça commençait à devenir compliqué, ça a déteint sur ma capacité à me faire plaisir sur le vélo et à performer. Et donc c'est dans ce cadre-là que je prends contact avec Anne pour essayer de de remettre les choses à plat et j'ai effectivement aucune honte à dire que j'ai eu besoin d'accompagnement à ce moment-là et je suis très content d'avoir été chercher un accompagnement extérieur pour mettre en perspective toutes ces choses-là. Et donc le socle de notre collaboration, il s'est basé d'abord professionnellement, remettre en phase quelles sont mes valeurs, quelles sont mes attentes, comment je me définis, et tout ça, ça s'est transposé bien évidemment sur ma personne au global, et puis sur la pratique sportive avec ce projet que j'ai sur le long terme vraiment de m'inscrire dans la durée sur sur la performance dans l'ultra-endurance. Voilà le
Est-ce que,
contexte.
sans rentrer forcément, pareil, dans les détails qui t'appartiennent, que se passait-il au niveau professionnel?
Une charge de travail importante, un responsable qui quitte son poste juste avant la Two Volcano, et donc je me retrouve à me mettre moi-même aussi une pression pour la suite par rapport aux responsabilités que j'avais, et donc forcément je pense que je sais que je pars en Italie, je suis asphyxié par le travail. Ma compagne rentre à ce moment-là d'un voyage à l'étranger et me retrouve vraiment, je pense, extrêmement stressé comme jamais, rarement je l'ai été. Et je pars en Italie dans ce contexte-là en étant effectivement pas dans des conditions optimales. Je pense que pour aller sur des courses de 1000 km, il faut aussi en amont se créer des conditions qui permettent de faire de la place. Quand je dis faire de la place, c'est alléger sa charge mentale pour justement avoir le réservoir plein pour prendre le départ de ces épreuves qui sont taxantes mentalement, qui demandent beaucoup, et il faut pas sous-estimer cet aspect-là. Et donc, il faut prendre des dispositions en amont, que ce soit professionnel, social, où effectivement il faut alléger un peu la mule et se préserver. Et je pense que je me suis pas du tout préservé à ce moment-là. Et donc je pars à l'asphyxie complet, même si physiquement je suis plutôt dans de bonnes dispositions et que ça va. Mais si effectivement physiquement ça va, la tête elle suit pas et c'est l'élément clé
N'était
effectivement
pas là.
pour. T'es pas là.
Est-ce que tu te souviens de l'épisode avec Guillaume Millet, le prof de physio de l'Uni de Saint-Étienne, donc qui a beaucoup, qui est un ultra-trailer, qui a énormément travaillé sur l'UTMB avec de nombreuses études, et qui a une théorie, bon, certes beaucoup moins classe que la tienne, mais qu'il appelle la théorie de la chasse d'eau. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Alors on a chacun nos métaphores, que ce soit la mule, la charrue ou n'importe quoi. Lui, c'est une chasse d'eau. Et à partir du moment où on arrive avec la chasse d'eau un petit peu trop pleine de problèmes familiaux, de problèmes professionnels, eh ben, il suffit qu'il y ait une petite contrariété sur la course pour que la chasse d'eau déborde. Et que même si les jambes sont là, la tête n'est pas là. Stéphane Brognard, lui, avait l'expression il faut que le pilote soit dans la voiture. Ta tête était restée à Lyon alors que les jambes étaient en Italie. Même si elles ne fonctionnaient pas, la tête n'était pas là pour les diriger.
Ouais, c'est exactement ça. Et donc voilà, donc je quitte la Two Volcano dans ces conditions par manque d'envie parce que trop saturé. Donc je quitte et donc j'abandonne, qui pourrait être vu comme une faiblesse ou je sais pas comment. En tous les cas, je pense que des fois il y a beaucoup de questions sur le fait est-ce qu'il faut abandonner, pas abandonner. Moi je pars, je suis quand même droit dans mes baskets parce que je sais pourquoi je le fais, et je sais que si j'avais continué, ce qui était fort, je pense que j'avais tout à fait les capacités pour le faire, ça aurait pas été pour les bonnes raisons. Ça aurait été plus pour prouver peut-être aux autres que j'étais capable d'aller jusqu'au bout, etc. Et ça, c'est pas les bonnes motivations. Et justement, je pense que si on force sur des mauvaises motivations, on prend le risque d'altérer sa passion et où ce petit feu, je pense que si j'avais poussé, j'aurais pu arriver à me dégoûter de la pratique ou pendant un certain temps. Je pense qu'il y avait besoin aussi de préserver cet amour que j'ai pour le vélo. C'était aussi une espèce de protection de se dire, ok, attends, là c'est pas les bonnes raisons, on arrête et on reprend quand ce sera le bon moment dans le bon cadre.
Alors pourquoi, alors je sais que c'est assez facile à dire après coup, pourquoi être parti en Italie sachant que tu n'étais pas dans de bonnes dispositions? Est-ce que tu ne t'en rendais pas compte à ce moment-là? Est-ce que c'était une fuite en avant? Qu'est-ce qui s'est passé?
La première chose, c'est que l'inscription était prise, les billets d'avion étaient pris également. Il y a de l'argent qui est investi pour l'inscription. On a agencé son calendrier pro en posant des congés, etc. Donc finalement, même si on est au pied du mur, on se dit qu'on y va quand même, même si on sait que on essaye de se convaincre que ça va marcher. Et quand je rentre à la maison, à la suite de mon abandon, et que j'en discute avec Pamela, qui est ma compagne, elle me dit, moi je te l'ai pas dit avant que tu partes, mais j'ai compris que ça allait pas, quoi. Et ça, je suis pas du tout étonné de la finalité, etc. Et c'est vrai que quand on refait le fil, qu'on met les choses en perspective, on se dit, bah oui, en fait, ça tombe sous le sens. C'était pas possible. Donc, je pense que c'était aussi un moment donné où il y avait un peu d'ego qui parlait, parce que, comme je l'ai dit précédemment, la première course, ça a bien marché. Et quand ça marche bien, c'est la propre de l'homme, on en veut plus. Enfin, que ce soit dans le domaine sportif, mais que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amoureux, quand les choses marchent, on veut que ça continue à marcher dans le bon sens, et on veut retrouver la recette qui fait que ça marche. Et je pense que j'ai essayé de me convaincre que ça allait être possible, et c'était pas possible. Voilà.
Tu as rebondi par la GTMC ou tu as préparé une épreuve avant? Entre la Tout Volcano et la GTMC, tu as fait quelque chose ou tu t'es
Non,
juste mis en retrait?
j'ai fait aucune course. Il y avait vraiment, en fait, tout de suite après la Tout Volcano, je prends un temps off et je comprends que j'ai besoin de réinterroger les motivations de pourquoi est-ce que je fais cette démarche, pourquoi est-ce que je fais de la compétition, pourquoi beaucoup de pourquoi. Et je repense à la GTMC que j'avais pratiqué, que j'avais parcouru en 2018, et je retrouve quelque chose qui m'anime vraiment et qui est très lié juste à la passion de faire du vélo, sans parler de performance. Bon, aujourd'hui on parle d'un FKT, il y a un film qui a été mis en place autour de ça, mais la racine, c'est je fais quelque chose pour moi. Je vais retourner à l'essence même de ce qui m'anime, c'est pédaler dans la nature, c'est être au contact de mes sensations, et voilà, quelque chose de très personnel. Et puis, parce que je pense que je suis quelqu'un qui a envie de partager et de communiquer, très vite l'idée vient de se dire, c'est un super projet. Il y a quelque chose à mettre en place autour pour le partager avec d'autres, parce qu'il y a une histoire, parce que justement il y a ce cheminement aussi derrière, et je pense que c'est super, parce que s'il n'y avait pas eu la GTMC, on serait pas là à discuter peut-être de ce sujet-là. Donc finalement derrière se met en place le côté projet média, le fait qu'il y a Ryan, etc. Mais l'essence même, c'est se dire ouais, je retourne à ma passion première, qui est faire du vélo en nature. Et donc entre là j'étais entre en tous les cas la Tout Volcano et la GTMC, il n'y a pas eu de compétition, il y a eu en tout cas un temps de préparation où j'ai passé beaucoup de temps sur mon vélo, mais j'ai pas fait d'autres compétitions.
Est-ce que ça signifie que tu as relativisé la notion de performance, ce que l'on peut entendre par performance? Alors, deuxième cut, qui est en fait une parenthèse, et cette deuxième parenthèse cut, je la dédie à Benjamin L, qui m'a fortement incité à davantage couper mes invités bavards. Ce que j'ai pas précisé, c'est que je suis moi-même en ce moment en formation pour être coach mental et que j'ai bien du mal et que je m'y replonge actuellement sur les conseils avisés de Sophie M, qui écoute elle aussi cet épisode parce que je l'ai prévenue. Et donc j'ai plein de questions en fait aussi par rapport à ça parce que je suis en plein dans cette démarche. Est-ce que donc ça relativise ta notion de performance, ce que l'on peut sous-entendre par performance dans des sports entre guillemets plus traditionnels, sport d'équipe, sport d'opposition ou sport de compétition en opposition avec d'autres comme le vélo sur route, le VTT, le cyclocross, tout ça, le tennis, le ping-pong, le foot. en opposition avec nos disciplines ultra, où la performance n'est pas juste basée sur le classement et un petit peu éventuellement sur le temps. Est-ce que ça a remis tout ça en perspective et en question ?
Je pense que oui, parce que lorsque je repars sur la Tout Volcano, je pars avec des pensées qui sont très liées au classement. C'est-à-dire que je me dis, ok, je vais sur Tout Volcano, il y a beaucoup d'athlètes importants, je vois ce que j'ai fait comme temps précédemment, je me dis, ok, je peux être devant, sur le podium, je peux être dans les cinq premiers, enfin... Quelque chose qui est très lié, qui est non rationnel en fait, parce qu'aujourd'hui la performance en ultra, elle est sur plein de facteurs. Et je pense que un des éléments de succès en tous les cas, c'est de pas se comparer aux autres et vraiment se dire, ok, moi ma performance demain, si elle est mon ambition, elle est de gagner la Tout Volcano, plutôt se baser sur des motivations personnelles comme un objectif personnel de temps, par exemple, mais pas de se dire de pas le lier au classement, parce que on peut avoir fait une performance, c'est-à-dire considérer avoir été au bout de soi-même et avoir été la meilleure version de soi-même sur une journée précise, mais il se peut que sur cette journée précise, il y a un autre athlète qui est tout simplement été meilleur. Et donc, est-ce que ça diminue pour autant la performance que je viens de réaliser? Bah non. Mais si je définis la performance comme étant un élément très lié à un classement, alors effectivement, ça pourra être considéré comme un échec. Donc, je pense effectivement que j'ai revu en tous les cas, peut-être, mon barème de notation ou de cotation de la performance vers des choses qui soient plus personnelles. Et je pense que c'est ce qui m'a, en tous les cas, nourri sur la GTMC et la préparation, en tous les cas, de cette échéance.
Donc si je résume, tu es allé à la Tout Volcano simplement pour des raisons externes. Tu voulais montrer aux autres que tu en es capable, tu voulais faire un temps, faire une place, tu voulais aller fighter un petit peu avec des athlètes reconnus. Et toi là-dedans, tu étais où ?
Je pense que c'était pas 100% du tableau, il y avait une grande partie qui était liée à ça et probablement une trop grande partie, et c'est ce qui aussi, en plus de la surcharge professionnelle, surcharge mentale, etc., fait que c'était pas le bon angle pour traiter ça, parce que finalement, si je retourne encore un tout petit peu en arrière sur la première course que je fais, le Biking Man France, j'y vais sans a priori, j'y vais sans penser classement, j'y vais en pensant plaisir, parce que je suis amoureux du parcours, et puis finalement, après 500 km, je me retrouve premier avec Christophe Jickmans à ce moment-là. Mais ça arrive comme ça, en fait. Je me suis pas dit, il faut que tu sois premier, En tous les cas, c'était pas la motivation première. J'y allais en me disant, t'y vas pour gagner, on y va pour gagner, parce que je suis un compétiteur. Mais c'est pas l'élément central et il y a plein d'autres choses à prendre pour soi. Et donc là, Tout Volcano, il y a eu effectivement peut-être un shift et que dont j'en tire aujourd'hui les enseignements et que j'ai mis en application. Et sur la GTMC et par la suite sur la dernière Atlas Mountain Race d'octobre dernier.
Il faut qu'on en parle celle-là parce que je me suis beaucoup inquiété pour tes fesses.
Elles vont mieux.
Elles ont morflé, les pauvres. Et ton oncle n'y était pour rien, lui, encore une fois. Mais là, putain, ça a dû être un véritable massacre. Hein, pizza italienne. Voilà. Désolé. Sur la part, alors c'est très rigolo parce que donc hier matin j'avais une longue section de voiture, donc j'ai écouté une des parties de la formation et il y avait une longue partie sur l'épure en fait, et on a tous vécu ce truc où on n'est jamais aussi bon que lorsque l'on ne réfléchit pas à ce que l'on fait. À titre perso, je n'ai jamais été aussi bon avec mes capacités et mon niveau à vélo que lorsque je ne pensais pas au résultat final. En musique, on m'a toujours reproché de trop réfléchir à ce que je joue et que ça se voit. En plus, c'est que je réfléchis en jouant et on m'a toujours dit de lâcher les coups au lieu de réfléchir à quoi faire. Et ce que je constate, c'est que toi, tu es arrivé au Biking Man totalement épuré, pour reprendre l'expression entendue dans la formation hier. Salutations à Sophie. Tu étais vraiment dans l'épure et le minimalisme mental et tu étais là juste pour faire. Tu n'étais pas là pour penser à quoi faire. Tu t'es juste contenté de le faire. Et à la Tout Volcano, tu as trop mentalisé, si on peut dire, même si ce n'est pas un mot qui existe, ton approche. Et au bout du compte, ça s'est fini par un abandon piteux, parce que tu étais là pour les mauvaises raisons. Donc c'est quand même bien dommage.
Ouais, je pense qu'effectivement, garder un peu de simplicité, mais la simplicité, c'est complexe, hein.
Cut numéro 3, Léonard de Vinci, la simplicité ultime. Et non, attends. C'est quoi déjà l'ultime sophistique? Non.
Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, l'ultime sophistication.
Attends.
C'est la simplicité. Mais...
La simplicité et la sophistication ultime. Voilà.
Donc, ouais, c'est ça, exactement.
Voilà, monsieur Google, quoi. Vas-y, allez, balance.
Non, mais c'est exactement ça. Et je discutais hier avec le fondateur d'une marque de vélo qui m'a sorti exactement ça, en fait. Faire simple, c'est complexe. Et c'est vrai. Et
ça demande de la maîtrise, parce qu'il faut passer par un processus d'erreur, d'essai, d'erreur pour affiner. Et tu vois, j'en ai parlé au rédacteur en chef du magazine la semaine dernière, et j'ai repris l'exemple de la musique. Quand on prend un mauvais musicien comme moi, on va avoir la même attitude que toi, on va vouloir en mettre des tonnes, impressionner, jouer vite, taper fort comme une mule. Et si tu prends un bon musicien, il va être capable de faire danser une salle entière avec quelques notes, mais simplement les notes qu'il faut, et de jouer simple et de jouer efficace. Et nous, mauvais musiciens, en tout cas moi, eh ben on se sent obligé d'en mettre des tonnes, des caisses et de... Tu vois, de mettre de la double, des trucs partout. Et ça sert à rien. Les gens veulent juste... La musique qui fonctionne, c'est quand t'as juste les gens qui font ça. Et quand c'est trop compliqué, on bouge pas. On bouge pas quand c'est trop compliqué ou trop complexe ou pas simple. On bouge pas. Mais quand c'est simple, efficace et épuré, on a juste la tête qui bouge. Et ça, c'est cool. Ça, c'est la musique.
C'est la simplicité, ouais, exactement. Donc, pour faire simple,
vas-y.
J'ai fait du complexe avec Anne pendant quelques mois pour arriver dans de meilleures dispositions sur la GTMC, et donc on a décortiqué, en tous les cas soulevé des questions pour effectivement essayer de simplifier ou assainir, je sais pas comment on pourrait dire, mais toutes ces pensées, voilà.
Donc trier tes pensées.
Je saurais pas trop comment définir la préparation mentale. Le mental, c'est d'ailleurs, qu'est-ce que le mental? Comment est-ce que toi tu définis le mental?
Alors moi, je le définis pas, parce que j'ai pas encore cette prétention. Je suis pas allé assez loin dans le processus de l'ultra et de ma formation. Mais si je me réfère à l'épisode que j'avais fait avec Stéphane Brognard, je lui avais posé la question. Et d'ailleurs, on voit plein de trucs tourner là-dessus sur les réseaux sociaux en ce moment. Des gens qui prétendent pouvoir définir ce qu'est un gros mental. Stéphane m'avait dit, avoir un gros mental, c'est avoir avant tout un mental bien organisé. Et ça veut dire certainement trier ses pensées, être capable de... T'as un message? Ah non, c'est moi, pardon. Mais je lui avais dit de m'appeler demain. Voilà, à demain. C'est être avant tout capable de trier ses pensées parasites et de les contrer. Alors là, je cite, je paraphrase la formation totalement. Et les contrer avec des pensées parades. Donc, si on a quoi que ce soit qui se passe dans la tête, donc des pensées parasites qui sont... bien nombreuses et tout à fait personnelles, qu'est-ce qu'on met en place et comment on va s'organiser et comment on va créer des routines de petites étapes pour aller d'un point à un autre et aller vraiment au bout au lieu de voir la globalité et de se laisser noyer par la globalité du truc. Donc j'ai pas de là, je me réfère uniquement à ce que les autres ont dit. Moi, j'ai pas la réponse encore. Toi?
Je dirais c'est la somme des habiletés psychiques à créer une dynamique positive, quelque chose comme ça. Enfin, c'est créer ouais, arriver à créer un espace positif et dans lequel on maximise l'ensemble de ses capacités, en tous les cas qui s'oriente vers la maximisation des capacités cérébrales, je dirais, quelque chose comme ça. C'est un peu
Cérébral.
ouais, enfin, pour pas réemployer le mot mental, mais en tous les cas, ouais,
Ouais.
c'est très lié au cerveau, donc moi je vois ça comme ça. Voilà, après, est-ce qu'il y a une méthodologie? Je crois pas. Je crois qu'il y a plein de
Je suis pas
méthodologies.
sûr. Ouais, je pense. Je pense aussi, ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Anne pour mieux préparer cette GTMC dans les grandes lignes? C'était déjà remettre à plat qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me définit, comment je me définis. Et je pense que c'est un élément important pour le sport, mais qui est applicable sur plein d'autres pans dans la vie, parce que pour bien fonctionner en couple, bah, il faut bien s'entendre avec soi-même. Pour bien vivre avec les autres, il faut bien être bien avec soi-même. Pour savoir, se sentir épanoui professionnellement, il faut bah, se connaître sur ses envies, ses appétences, ses forces et ses faiblesses. Et c'est un peu la même chose sur le côté sportif. Donc pour limiter en tous les cas les pensées négatives ou en tous les cas l'orientation des mauvaises raisons pour prendre part au départ de la GTMC, au départ de l'Atlas et à toutes celles qui arrivent, c'était déjà voilà, refaire un peu un état des lieux de qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel est mon projet, comment est-ce que moi je me définis. Et puis ça, c'était le socle. Après, c'était se redemander pourquoi est-ce que je fais la démarche de la GTMC, qu'est-ce que je vais y chercher, quelles sont mes attentes, comment est-ce que je définis effectivement la réussite. Et une fois que l'ensemble de ces éléments ont été, en tous les cas, moi je les ai, on en a discuté, mais je les ai réécrits, ça m'a aidé aussi dans ma démarche de les mettre blanc sur noir, de me dire, ok, en fait, le socle, il est là, il est acté, il n'y a plus besoin de se re-questionner sur ça. Les choses, elles sont écrites. Parce que un des éléments clés, enfin, pas clé, mais un des éléments qui est propre à l'ultra et dès qu'on part pour de longues heures, c'est le doute. Le doute, il arrive comme ça, il toque à la porte. Bonjour, c'est moi, le doute. Mais pourquoi est-ce que tu fais du vélo aussi longtemps? Mais pourquoi est-ce que tu dors pas? Enfin, tu pourrais t'arrêter quand même. Enfin, et ça vient mettre le bazar mentalement pour se dire allez, je continue, j'y vais, j'en ai la capacité. Et donc d'avoir écrit tout plein d'éléments en tous les cas sur quelles étaient mes motivations, pourquoi j'étais là, etc. Lorsque le doute il est arrivé, parce que bien évidemment il est arrivé, il arrive relativement vite en plus, hein, suivant les phases, comment on se sent, etc. Bah, la porte, elle était fermée. Mentalement, moi, je me disais, le doute, il est arrivé, il a fait toc toc, c'est le doute. Mais pourquoi est-ce que t'es parti faire cette GTMC là? Tu serais quand même mieux chez toi au chaud. La petite voix dans ma tête lui a dit, mais non, non, moi, je ne discute pas avec toi parce que je sais pourquoi je fais ça. C'est déjà écrit, c'est dans le petit cahier à la maison, je l'ai enfermé. Et c'est intéressant de parler, tu vois, de le petit cahier enfermé à la maison, parce que qu'est-ce que j'ai fait en écrivant et en notant noir sur blanc mes motivations? J'ai fait des ancrages mentaux sur lesquels bah, j'ai mis dans une petite boîte mes motivations, etc. Je l'ai refermé à clé avant de partir. Et puis, quand le doute est arrivé, j'avais même pas la clé avec moi. Je pouvais pas lui ouvrir, je pouvais pas lui répondre. Et donc, par remettre en question tant tas d'éléments de qui je suis, pourquoi je fais ça, etc. Et donc, me concentrer sur être dans le moment présent et faire, justement.
J'ai deux questions que j'ai notées. Quand tu dis définir la réussite, question naïve, est-ce qu'il y a une mauvaise réponse à définir la réussite? Si on dit, moi la réussite c'est écraser les autres, être le meilleur, prouver à mes parents que j'en suis capable et prouver à mon maître d'école que j'en suis capable parce que quand j'étais petit il me parlait comme une merde. Est-ce que, entre guillemets, c'est une mauvaise réponse? Sophie, je te pose la question aussi.
Alors, je crois pas qu'il y ait une mauvaise réponse à ça. Parce que j'ai quand même, on parle de trouver des bonnes raisons, etc. Il faut, et c'est quelque chose qui est très français aussi, hein, dans le système français. Dès qu'un athlète dit j'y vais pour gagner, je veux gagner, on le trouve prétentieux. Ce sont des bonnes raisons d'aller faire des compétitions, de vouloir gagner, de vouloir être meilleur que les autres. C'est, forcément, je ne crois pas qu'il y ait un grand champion qui n'ait pas eu à un moment donné ces pensées-là. Et elles doivent faire partie de l'équation pour nourrir justement la hargne, la motivation, etc. Mais ça ne peut pas être que ça. Et donc, la réussite, elle doit se définir aussi par des motivations intrinsèques. Et tu parlais de « il faut que je prouve que », etc. Il y a un truc que moi j'ai compris en tous les cas en échangeant avec Anne pendant les séances qu'on a faites, c'est que le « il faut que », j'essaye complètement de l'enlever de ma manière de m'exprimer et de faire les choses. « Il faut que j'aille m'entraîner ». Ben non. En fait, j'ai choisi de m'entraîner. Il faut que j'aille faire cette course. Ben non, j'ai choisi de m'inscrire consciemment à cette course. Donc, pour limiter le « il faut », ça induit une obligation. Mais on ne s'oblige à faire que les choses que l'on a décidées. Donc, il y a aussi des manières comme ça de se parler dans la sémantique, de se dire des choses lorsque l'on est sur le vélo. Et ça, la préparation mentale, elle amène plein d'éléments de perspective pour aider, en tous les cas, et mettre le cerveau dans de meilleures dispositions, en tous les cas, grâce à des outils, ça permet, en tous les cas, de favoriser la notion de performance et ou de bien-être et ou d'être en phase avec la réussite. Mais la réussite, si pour toi, tu considères que demain, ta course, ce sera une réussite parce que tu as écrasé la concurrence, parce que tu as fini premier. Très bien. Et ça peut être une des réponses à ta définition de la réussite. Si ta définition de la réussite, elle est que ça, je pense que si tu ne gagnes pas, pour X ou Y raison, alors tu seras dans un état mental derrière qui sera très compliqué. Plutôt que se dire, ok, bon, bah, si je ne gagne pas, parce que ce jour-là, quelqu'un est meilleur que moi, bah, la réussite, ce sera d'avoir réussi à avoir été au bout de moi-même, de ce que je peux faire avec les compétences que j'ai et les outils que j'ai à l'instant T. Voilà, y a plein de manières, effectivement, de la définir, et je crois pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Oh là là, je crois pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise réponse.
Ouais, non mais là, t'inquiète, on t'a tous vu venir. Alors, je précise, à toute fin utile, que c'est pas la peine de me dire si tu gagnes ou si tu écrases la concurrence, c'était un exemple volontairement provocateur et qui ne me concerne absolument pas. Parce qu'évidemment, je n'ai pas le niveau d'écraser la concurrence, pour écraser la concurrence, pour gagner quoi que ce soit. Donc je suis bien loin de ces motivations. Quand tu dis « j'ai fermé la porte parce que c'est écrit dans le plan, il n'y a plus besoin de questionner », as-tu vu le film sur Richard Williams et ses filles, donc Serena et le prénom de sa sœur m'échappe parce que je vais l'avouer publiquement, Vénus. J'aime pas le tennis.
Non,
voilà, Vénus, parce que j'aime pas le tennis, mais vraiment, vraiment j'aime pas ça. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. Mais le film est exceptionnel. Je savais qu'il y avait une sacrée histoire derrière tout ça. Mais de voir le film, c'est très, très, très intéressant. Donc, je te le recommande.
On en a parlé avec des copains il n'y a pas longtemps et il est sur ma
télé. Le nom m'a échappé. Ouais, je l'ai regardé. Et c'est cool. C'est pas aussi bien que Batman, mais c'est cool.
Ok.
C'est pas le même genre, quoi.
C'est pas le même genre. Mais ok, je me le note une nouvelle fois.
Ouais. Question subsidiaire, est-ce que avoir recours à un ou une coach mentale, c'est fait pour tout le monde ou est-ce que c'est pour les gens comme toi qui veulent performer, mais au sens classement, temps ou meilleur temps connu?
Moi, je suis convaincu que là, après.
Question piège, hein, question piège volontaire, mais on est en droit de se la poser.
Ouais, alors. Je pense qu'avant de répondre à ça, il faut. Et c'est très lié au contexte de l'ultra distance en ce moment. Quand tu dis, bon, bah, ok, j'ai une démarche de performance, j'utilise une prépa mentale. Déjà, la réussite, globalement, et encore une fois, je pense que c'est quelque chose de très ancré de manière globale, que c'est des fausses croyances que tout le monde peut avoir, c'est pour faire ça égale résultat. En fait, s'inscrire dans une démarche de performance, c'est mettre en place au quotidien un certain nombre de choses, mais ou être athlète, ça ne veut pas dire gagner. En fait, il y a plein de gens dont le métier est athlète de haut niveau, dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est malheureusement la loi du sport. Mais
Et qui ne gagne
et
jamais.
qui ne gagnent jamais, et qui ne gagneront jamais. Est-ce que ça en fait pour autant des athlètes, enfin, des athlètes inférieurs par rapport à ceux qui gagnent? Non. Ils font le même métier. Ils ont, dans ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en place au quotidien, ce qui les définit, c'est la démarche. Et aujourd'hui, on dit, ah, donc toi, tu fais de la prépa mentale, mais non, et tu gagnes pas de course. En fait, c'est un process. Et la démarche, elle doit être plutôt globale, plutôt que de se dire, moi, avant d'engager cette démarche-là, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et s'il y a des résultats, tant mieux. Mais au global, c'est pas ce qui définit ce que j'essaie de mettre en place. Et une fois qu'on a mis ça de côté, parce que vu que l'ultra-distance, en fait, est un sport de niche plutôt nouveau, qui est en train de se professionnaliser, certains vont plutôt rire et dire ouais, attends, moi les 1000 km, j'y arrive sans prépa mentale, j'en ai pas besoin, etc. Eh bien, très bien. Aujourd'hui, on constate quand même, comme l'était le trail running il y a quelques années en arrière, dans une démarche de professionnalisation, on voit qu'il y a des gens qui arrivent avec des vrais projets sportifs sur l'ultra distance, qui souhaitent en vivre, qui mettent en place une démarche de performance, qui performent ou qui performent pas, mais qui mettent en tous les cas une démarche de performance. Et forcément, ça fera rire certains qui diront toujours c'était mieux avant. En tous les cas, le sport évolue, il faut évoluer avec son temps. Et une fois qu'on a mis ça de côté, on peut se dire bah oui, n'importe qui peut bénéficier de la prépa mentale, parce que moi, ma réussite, je la définis en partie par le succès sur des courses ou des certains temps, etc. C'est une partie de mes motivations et c'est pour ça aussi que je fais de la compétition, pour de l'épanouissement personnel. Mais il y a des gens qui n'ont pas la prétention de vouloir gagner, qui ne pourront pas gagner parce qu'ils s'entraînent pas assez, parce que c'est pas leur, c'est pas, ils sont pas là pour ça. Par contre, ils peuvent tout aussi bien bénéficier de la préparation mentale pour être mieux alignés avec leurs valeurs, mieux dans leur basket, mieux gérer, mieux appréhender ses efforts et trouver des outils pour les aider dans leur réussite qui, elle, sera simplement peut-être finir, venir à bout de la distance. Je veux dire, la réussite, j'écoutais un podcast il y a quelques mois d'un athlète, j'ai perdu son nom, mais qui disait, moi, je préfère finir troisième avec le sentiment d'avoir été au bout de moi-même que finir premier et être cassé mentalement. Je pense que la définition de la réussite aux yeux des autres, elle est très subjective. Donc, il faut se poser les bonnes questions de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et chacun peut bénéficier de ces outils. On n'est pas obligé d'aller voir un psychologue parce que on est au bord du gouffre, que tout va mal. On peut parce que on a un petit souci dans la vie, se dire bah ouais, je vais chercher une aide extérieure. Il y a un tabou encore de se dire je vais chercher de l'accompagnement extérieur, etc. Mais la préparation mentale, elle est arrivée dans le sport en France très longtemps après après les États-Unis, par exemple. Donc aujourd'hui, la prépa mentale est un peu en vogue, on communique de plus en plus dessus, il y a de plus en plus de monde qui se met à faire de la prépa mentale. Et ben, tant mieux, c'est bien, il faut pas mettre ça au banc des accusés en disant c'est du bullshit. Certains grands athlètes qui ont fait des grandes performances pourront dire bon bah moi j'ai pas utilisé de prépa mentale. Très bien. Moi, l'objectif,
tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux.
Tant mieux pour eux. Et peut-être que même si pour jusqu'à présent, ils n'ont pas utilisé en tous les cas de personnes tierces pour les aider dans cette démarche, peut-être que demain, s'ils démarrent quelque chose avec quelqu'un qui fait de la préparation mentale, ça leur bénéficiera et ça leur apportera d'autres choses encore. Donc, pour répondre, oui, la prépa mentale peut bénéficier à chacun.
Ouais. Concrètement, sur la GTMC, ça s'est traduit comment? Quand le petit personnage du doute est arrivé? Quand vraiment ça a été dur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver au bout? Et surtout, dans quel état es-tu arrivé? Ça fait beaucoup de questions dans la même question, mais ça, c'est une signature personnelle.
Je pense que déjà, le mot prépa mental, il peut faire peur dans son aspect, mais... Lorsque j'ai commencé à échanger avec Anne de mon côté sur qu'est-ce que la préparation mentale, qu'est-ce qu'on va mettre en place, je me suis aperçu que en fait de la prépa mentale, je pense que moi j'en faisais déjà à ma petite échelle sans en avoir conscience, et je pense que plein d'autres le font sans en avoir conscience. C'est par exemple lorsque je fais du home trainer à la maison, que je suis sur les rouleaux, que je suis face au mur et que j'ai pas Zwift et que j'ai juste de la musique, je m'imagine pédaler sur les chemins. Et ben ok, j'ai envie de faire telle course, alors je vais regarder une vidéo sur la course parce que je vais arriver à voir, à imaginer les paysages. Ben ça, c'est de la visualisation. Et ça, c'est un des premiers pans de la préparation mentale. Visualiser son effort, visualiser ses sensations, ça fait partie en tous les cas, de ce qu'on met en dessous du tapis de la préparation mentale. Donc ça, je le faisais déjà avant.
Énième cut, on en fait aussi de manière un petit peu détournée, simplement due à la préparation physique. Quand on répète des sorties longues ou des automatismes sur certaines sorties longues, au bout du compte, on va trouver des parades et on va créer des routines qui s'apparentent à de la préparation mentale. Quand on dit, en tout cas quand je dis à mes gars, pour un 300, et bah, tu te trouves des petites étapes, tu vas d'abord au 50, puis au 100, puis au 150, etc. jusqu'au 300, et à un moment, tu oublies l'objectif final, et t'essayes simplement d'arriver au 50 bien, au 100, au 150, etc. C'est déjà un exercice mental. Quand Clémence van der Geinst me dit « j'arrive au départ d'une course », je regarde tout le monde et je vois certains ont tel type de sacoche, d'autres ont des prolongateurs, d'autres n'en ont pas, et moi je me demande ce que j'ai et pourquoi j'ai choisi ça. C'est aussi de la préparation mentale, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne pas se comparer aux autres, savoir pourquoi on fait les choses, être sûr de ses choix, et être sûr de ses choix, c'est les avoir éprouvés sur le terrain, sur des sorties qui se prêtent à l'utilisation de ce matériel, et ne pas avoir ressentir le besoin de se comparer à d'autres et d'être sûr de ce que l'on a utiliser, de ce que l'on va utiliser, parce qu'on sait que ça correspond à notre usage. On pourrait multiplier les exemples, mais les pneus, plein de trucs, ça fait partie de cette démarche. Et on n'appelle pas ça préparation mentale pour autant.
Exactement.
Mais n'empêche que ça en fait partie.
Exactement.
Ça fait moins peur.
Ça fait moins peur, mais voilà, la préparation mentale, c'est juste l'accès à des outils mentaux qui permettent de mieux appréhender des situations. Donc concrètement, sur la GTMC, j'avais fait le choix donc concrètement de séparer la distance. Donc j'ai segmenté les 1380 km de la GTMC, effectivement comme tu le dis, pour mieux aborder la distance. Parce que si tu es au départ et que tu te dis bon là je pars pour 1300 bornes, forcément, c'est rien que
c'est la noyade.
Ça fait peur. Forcément, se dire, mais 1300 km, mais c'est immense. Et je suis pas au départ du Tour Divide qui fait 4000 bornes. Faut donc se dire, ok, concrètement, moi, sur la GTMC, et on le voit dans le film, la segmentation en chapitres qui est faite dans le film, donc il y a 5 chapitres, elle suit à peu près la segmentation mentale que j'ai utilisée, qui est aussi un découpage un peu, pour le coup, géographique, mais sur lequel je suis venu associer des émotions, des sentiments, etc. Je m'explique. La GTMC, donc, elle débute à Avallon. Le premier tronçon que j'ai décomposé, c'était le Morvan, le parc régional du Morvan. que moi j'ai associé mentalement à la notion de la maison. Cette notion de bah, je suis chez moi, on se demande souvent qui on est en cherchant d'où on vient. Bon, bah, ça répondait déjà un petit peu à ces questions. Et en fait, chacune des parties traversées de la GTMC a été associée mentalement à une image ou en tous les cas à un ressenti ou une émotion. La suite, c'était les plaines de l'Allier. Moi, j'ai associé ça à la douceur, j'ai associé ça, je percevais déjà en parlant de plaine de l'Allier, de la brise légère sur mon visage. Voilà. Et d'avoir finalement segmenté comme ça, géographiquement, et en y associant des éléments plutôt positifs, et exclusivement positifs d'ailleurs, pour chacun de ces segments-là, ça m'a permis de venir à bout petit à petit de chacune, enfin, en tous les cas, de chacun de ces tronçons et de mieux l'aborder. Et de me dire, OK, quand je suis parti de Avallon au début de cette GTMC, je partais pas au Cap d'Agde, mais je partais à la découverte de mon jardin, de la maison, je partais à la découverte du Morvan, j'allais explorer, voilà. Et avec en point de mire, finalement, après des sous-parties comme, OK, la première étape, ce sera Saulieu, c'est 100 km à peu près, et ainsi de suite. Et finalement, ce découpage mental, il est beaucoup moins décourageant que de regarder la course dans son entièreté. Et aussi, dans ce découpage mental, savoir se récompenser. C'est se dire, OK, bah, là, par exemple, je suis arrivé à la fin du Morvan, bravo. C'est se dire mentalement, se féliciter de ça. Mais ça peut se traduire, par exemple, de manière encore plus pratico-pratique, c'est, OK, là, il y a une montée qui va être difficile. Je m'engage physiquement et mentalement dans mon effort. Et à la suite de cette montée, je me récompense, par exemple, je sais pas, j'ai des Haribo avec moi, je me file un ou deux Haribo en me disant, OK, c'est ça la récompense. Et le cerveau fonctionne comme ça. En fait, quand tu fais un projet au boulot et que ton boss à la fin il te met une tape dans l'épaule et qu'il te dit, bon travail, bah ça fait du bien de l'entendre. On a besoin de se dire que les choses qu'on fait en tous les cas, sont faites pour quelque chose, qu'elles ont une valeur, et avec cette notion de système de effort-récompense. Et en tous les cas, là, de manière très pratique, voilà quelques éléments qui ont été mis en place sur cette GTMC.
Et pour te. Donc, j'ai bien compris que l'Allier, c'était la douceur de vivre, le vent dans les saules et sur ton visage, que le Morvan, c'était la maison et le côté rassurant. Le Cap d'Agde, c'était les plages naturistes.
Exactement. Le Cap d'Agde, alors moi je l'ai associé au sud, la partie en fait à partir
Bien,
de.
bien joué, bravo Thomas, bravo.
Voilà, je ne rebondirai pas sur tes conneries. Non, mais je l'ai associé au sud et je pensais à la chanson, à la chanson de Nino Ferrer par exemple, qui moi m'a ramené à un souvenir quand j'étais à l'école primaire, j'étais gamin, j'avais chanté dans la chorale. De l'école, on avait chanté ça. Donc ça m'a ramené à des éléments voilà positifs de qui je suis, pourquoi voilà je pars sur la GTMC pour redécouvrir quelles sont mes passions premières, qui je suis à la base, et donc voilà comment j'ai réussi à associer Nino Ferrer à cette chanson. Voilà.
Merci pour le petit tacle sur mes conneries. C'est toujours appréciable. Merci, merci. N'empêche que ça t'a fait rire quand même. Donc il serait plutôt judicieux d'assumer cette part de coquinerie en toi plutôt que de dénigrer mon humour pathétique.
Je ne donne pas d'eau à ton moulin.
Coquinou, coquinou. Bien, alors. Ça, c'était sur la GTMC. Quand ça a été dur, que s'est-il passé? Et qu'as-tu fait? Parce que c'est bien beau. Tu nous dis, j'ai segmenté mon truc et je suis allé d'un endroit à l'autre, du vent dans les saules et j'ai mangé des haribots. Tu ne vas pas me faire croire que ça n'a pas été dur et qu'à un moment donné, les haribots n'ont pas suffi.
Ouais, bah alors c'est sûr. Après, bah, y a eu des moments difficiles.
Cherche bien, hein.
Si, si, non, non, mais il y en a eu. Et d'ailleurs, il y a une image dans le film où on me voit pleurer sur le vélo. Donc, c'était pas voulu que ça arrive au moment où Ryan se trouvait au bout du chemin, mais bon, c'est tombé comme ça. C'est finalement, a posteriori, je me dis que c'est pas plus mal parce que ça montre aussi vraiment l'impact que ça a. Que ces épreuves ont sur le mental. Et je pense qu'à ce moment-là, comme le dit Josh à Ryan, j'ai touché du doigt vraiment l'essence même de l'ultra, c'est toucher ses limites, c'est se dire et c'est se découvrir. Et donc à ce moment-là, bon bah on pleure parce que c'est difficile, parce qu'on se dit mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et puis, il faut rester, et je pense que la sérénité que je m'étais construite en amont sur mes motivations, sur pourquoi j'étais là, pour qu'est-ce que je venais chercher, elles ont fait que bah, ces émotions, je les ai laissées passer devant moi. Elles m'ont traversé, mais j'ai pas eu, en tous les cas, si on imagine, je sais pas, quelque chose qui passe, qui est une émotion, j'ai pas essayé de la saisir. Et je pense que c'est ça, c'est un des éléments de la méditation finalement. C'est, je suis en conscience avec moi-même, je regarde mes émotions passées sans jugement, sans essayer de les altérer, mais en les acceptant. Et je pense que un des éléments clés de l'ultra-endurance, c'est la résilience. La résilience mentale, c'est se dire, bah oui, les choses, elles sont comme elles sont, mais j'ai décidé consciemment de me mettre dans cette position. C'est moi qui fait en sorte de me retrouver à cet endroit-là, à ce moment précis. Et donc, bah, je ne lutte pas contre mes émotions aussi négatives peuvent-elles être, mais je les laisse passer. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à passer et qui m'aide à passer le cap dans les moments difficiles.
C'est tout.
Voilà, pour te répondre, je sais pas.
Il n'y a pas eu plus difficile que ça. Et t'as pleuré parce que c'était difficile, d'accord, magnifique. C'était difficile pourquoi?
La dureté physique, la fatigue, le manque de sommeil. Il y a un point important, c'est quand même que le manque de la privation de sommeil sur les épreuves d'ultra-endurance, ça joue énormément sur le positivisme. Moi, j'ai remarqué que au moins je dors, au plus je suis déprimé. Ça a un impact. Le sommeil a, outre l'aspect physiologique, c'est un réparateur de mojo, quoi. Hein. Ça remet la flamme, ça remet la bonne humeur. Et la fatigue a eu et le manque de sommeil ont eu quand même m'ont laissé triste de nombreux moments, alors même que j'étais venu chercher consciemment un effort pour me faire plaisir, etc. Mais c'est aussi l'ultra-endurance, que ce soit en vélo ou dans d'autres sports, c'est aussi aller chercher. Ce sera pas. C'est sûr que si on aborde ces éléments, enfin, ces épreuves-là, en se disant ce sera que plaisir, c'est se mentir à soi-même. Il faut aussi accepter qu'à un moment donné, ça va être difficile et qu'il faudra passer au travers de ces éléments-là. Et quand on sait qu'on va traverser des éléments difficiles, c'est plus simple de les aborder que si on s'est voilé la face et en se disant, bon, bah, ça va aller. Non, il y a des moments où ça va être difficile, mais c'est normal. S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème.
Alors, je rebondis un instant sur Joshy Bett. Et il y a quelques semaines, on a discuté bah, pour une interview dans le magazine. Et je vous balance direct la question que je lui ai posée, c'est pourquoi tu fais ça? Et il m'a dit, je cherche encore la réponse. Je sais pas.
Et du coup, tu me poses la question.
Non, je rebondis juste là-dessus. Simplement, avant
Ouais.
de passer à la suite, c'était pas une question parce que tu notes que mon intonation est restée
Assez neutre.
relativement descendante et
Tout à
que
fait.
voilà, et qu'il n'y avait pas spécialement d'interrogation. Donc, qu'as-tu fait par rapport à ce manque de sommeil? On le sait, moi je suis dans le même cas et on est nombreux comme ça. Lorsqu'on est en manque de sommeil, on a tendance à devenir un petit peu grognon et à voir la vie en noir. Et il suffit d'une bonne nuit de dodo pour que subitement tout aille beaucoup mieux. Tu étais triste, tu n'avais pas assez dormi, tu pleurais, qu'as-tu fait?
J'ai continué à pédaler, j'ai continué à faire, comme on dit. Je m'étais créé en tous les cas, une suite de mots qui m'a permis, en tous les cas, à laquelle j'avais associé de la force. C'est-à-dire, moi, ce que je me répète, c'est je suis ce que je fais et je fais ce que je suis. Et sans faire de grande philosophie, cette tournure de phrase, ces deux petites phrases, moi j'y ai associé beaucoup de force mentale et j'y ai associé la force mentale grâce à des séances difficiles, par exemple, que j'ai passées sur les rouleaux avant d'aller faire la GNMC. C'est des séances qui sont vraiment désagréables, qui font mal, on a de l'acide lactique, ou c'est pas plaisant. Et c'est dans ces moments-là où on se dit, bah, ok. Moi, je me répétais cette petite phrase-là. Je vais parler d'un Florent Manaudou lorsqu'il gagne les JO, je crois c'est en 2012. Il bosse avant ça avec un prépa physique, un prépa mental, pardon. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Florent, il se pensait un peu en dessous de tous les autres athlètes. Il les voyait s'entraîner, mais il n'avait pas conscience qu'il pouvait aller plus vite qu'eux. Par contre, il savait que pendant ses séances de musculation, il soulevait, je crois, c'était un truc énorme, comme 150 kilos développé couché, et il a associé à l'entraînement pendant ses phases de musculation le mot puissance lorsqu'il faisait le geste. Et quand il arrive en finale des JO, pendant sa course, il pense à ce mot puissance, qui est associé mentalement au geste sportif de pousser la barre lorsqu'il faisait du développé couché. Et ça a pour effet de débloquer finalement une partie des capacités cérébrales ou mentales, comme on veut, qui lui ont permis de se surpasser et d'arriver en tous les cas peut-être à son plein potentiel et donc de gagner. Bah, j'ai essayé de refaire la même chose dans mon entraînement en utilisant une tournure ou un mot qui m'est propre par rapport à mon histoire, par rapport à mon passé, etc., auquel j'y ai associé des émotions et que j'arrive à retranscrire en tous les cas pendant l'effort d'ultra où lorsque c'est dur, bah, je me dis ok, bah, je suis ce que je fais, je fais ce que je suis là, je suis en face de mes valeurs, je suis en face de ce que j'ai envie de faire et même si toutes ces émotions négatives elles arrivent à moi, je sais pourquoi je fais ça, c'est ancré et le fait d'avoir potentialisé une expression, un mot via une pratique à l'entraînement. C'est un entraînement que de faire l'entraînement difficile sur les rouleaux, mais c'est un entraînement mental que d'essayer de se projeter dans un effort difficile, de l'associer à un mot. Et parce que j'ai développé ça à l'entraînement, alors j'arrive à le mettre en action lorsque je suis en compétition. Il y a plein d'autres ancrages mentaux qui sont possibles. Certains ont besoin de se toucher le bout, enfin une partie du corps. Enfin, c'est des ancrages mentaux. Il y a plein de manières de les mettre en place.
Quel a été ton ancrage, sachant que tu as abandonné la Tout Volcano en 100e place, lors de l'Atlas Mountain Race où tu étais globalement à la même place mais que tu avais les fesses absolument détruites, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Donc tu n'avais pas l'intention d'abandonner, tu savais pourquoi tu étais là, mais par contre tu avais un problème majeur qui était d'avoir le cul explosé. Et de mémoire, je crois que tu as fini avec une serviette ou une surépaisseur pour protéger le fessier, c'est ça?
Ouais, c'est ça, j'ai scotché mon sur ma sur ma selle, j'ai scotché mon ma jambière de cuissard avec du scotch électrique pour essayer de retrouver un peu de confort. Bah, à ce moment-là, en fait, c'est simple.
Alors, question subsidiaire. Là-dessus, parce que en faisant ça, tu peux soulager un problème et tu peux t'en créer un autre. Est-ce que tu as très légèrement baissé ta selle?
J'ai baissé ma
Parce que tu peux aussi te créer, tu peux te créer une sur, tu peux surélever du coup ton corps et amener à une tendinite pour essayer de soulager ton fessier.
J'ai
Et au lieu
pensé
d'abandonner sur problème de fesses,
c'est la tendinite. Non, j'ai pensé à baisser ma selle,
ouais.
effectivement, puis ça a amené une surépaisseur. Mais effectivement, la situation, elle a généré tout un tas d'autres douleurs. Quand tu passes à peu près 500 km en danseuse, J'ai eu des douleurs au genou, j'ai eu des brûlures sous les pieds, mais de toute façon, je pense que n'importe quelle personne qui va faire l'Atlas Mountain Race n'en ressort pas les fesses propres, comme on dira. Je veux dire, on a chacun eu nos problèmes, et même Marin qui a gagné en octobre dernier, lui aussi, j'en suis sûr, fait face à plein d'autres problématiques physiques qu'ont généré de la souffrance ou de la douleur à un moment donné. Moi, à ce moment-là, quand j'ai mal au cul, je suis pragmatique, j'essaie de trouver une solution pour vite retrouver de la crème, prendre soin, mettre en place des actions physiques qui permettent de limiter ça. Et puis après, c'est se dire, ok, bon bah la douleur, elle est là, et je me concentre. En gros, quand j'ai une douleur physique, donc une problématique interne, j'essaye de focaliser mon attention sur quelque chose d'externe. Donc, je sais pas, j'ai mal au cul, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux mains, ou peu importe. Je me concentre sur l'extérieur. Par exemple, il fait beau, la chaleur est douce, la brise, est délicate. Je me concentre sur ça, sur ces éléments qui sont plutôt positifs, plutôt que de focaliser mes pensées sur le négatif à l'intérieur. Au contraire, si...
Et la nuit, les nuits sur l'Atlas, t'as fait comment? Parce qu'on sait que tu roules la nuit. T'as fait quoi?
Eh ben...
Tu t'es dit, ah, il y a des chèvres? T'as compté les cailloux? T'as fait
Non,
quoi?
bah la nuit, elle a aussi. Après, c'est de la philosophie, quoi. Mais moi, la nuit, je la trouve magnifique. Tu vois le ciel, il y a ce côté calme, il y a plein d'éléments auxquels se raccrocher. Quand tu es au milieu de l'Atlas, il n'y a pas un pet de lumière, ce qui te permet quand même de voir le ciel de manière très intense. Alors, bien évidemment, tu regardes devant toi, mais il y a une espèce de plénitude, il y a d'autres choses à aller chercher. À l'inverse, si par exemple les conditions elles sont pourries, qu'il pleut, qu'il fait extrêmement froid, alors j'essaye de me concentrer sur une sensation intérieure qui pourrait être plaisante. Je sais pas, moi je pense, je pourrais imaginer à la chaleur à l'intérieur de mon cœur. Je pourrais imaginer la chaleur qui fait dans mon cuissard. J'utilise l'ensemble de mes sens en fait pour essayer de trouver des leviers pour passer au travers de ces émotions. Et c'est ça que permet la préparation mentale. J'ouvre une boîte à outils et puis, ok, ah là j'ai mal au genou, ok, ah, alors mal au genou, c'est la page 4, très bien. Se concentrer sur l'extérieur. Voilà, c'est trouver des solutions, des parades. Et donc quand j'ai eu mal au cul, bah, j'ai pensé à d'autres choses à l'extérieur. J'ai repensé à mes motivations personnelles, notamment sur la réussite. On en a parlé au début. Moi, la réussite avant de partir pour l'Atlas, c'était, je m'étais donné un certain nombre d'objectifs dans un ordre qui, auquel cas, si je ne réussissais pas le premier objectif, j'arrivais à retomber sur mes pattes et à rester dans quelque chose de positif. Le premier, par exemple, c'était, OK, j'y vais pour faire moins de 3 jours et 20 heures. Si je fais pas moins de 3 jours et 20 heures, mon deuxième objectif, c'est d'y aller pour faire moins de 4 jours. Et si je n'arrive pas à remplir ce contrat-là, alors mon objectif, c'est de finir. Bah, j'ai pas réussi à faire moins de 3 jours et 20 heures, j'ai pas réussi à faire moins de 4 jours, alors je me suis accroché à mon objectif de finir. Et ça a été une réussite. J'ai appris plein de choses sur ma capacité à passer au travers de la douleur. Et puis, même si d'un point de vue performance et classement, j'ai pas répondu à mes attentes qui étaient, à mes ambitions qui étaient de vouloir, enfin de gagner. J'ai répondu à plein d'autres choses et j'ai répondu à plein d'autres. J'ai mis en place plein d'autres valeurs qui sont, je sais pas, l'abnégation, le fait de, voilà, de se dire bon bah la réussite c'est pas que gagner. On peut apprendre plein d'autres choses sur le chemin quoi.
Bah ça tombe bien parce que maintenant pour gagner l'Atlas, il va quand même falloir être un sacré costaud. Donc
Exactement.
je pense que les précédents vainqueurs doivent être contents d'avoir gagné parce que ça va peut-être pas se reproduire, hein, vu l'élévation du niveau.
Là, quand tu vois Robin qui gagne là sur un format, il y a quasiment 100 km de plus et quasiment autant de marins, c'est astronomique les moyennes qui sont faites, quasiment 18 km heure de moyenne. Donc, je crois que j'ai fini l'Atlas avec 14 et demi. Donc, oui, non, c'est sur des formats très courts. enfin très court, court de 1000 km. La physiologie du sport, en tous les cas, le sport est en train de se transformer. Et effectivement, avoir un gros moteur devient un prérequis important à la performance. Je pense que sur des formats plus longs, comme la Silk Road, comme le Tour Divide, ou je sais pas, la Race Across France, ce genre de choses qui vont durer 5, 6, 7 et plus, l'aspect mental, en tous les cas, il sera, et gestion du sommeil, etc., sera plus important. Mais je pense que dans tous les cas, que la préparation mentale et se poser les questions de comment est-ce que je gère une situation, etc., c'est des éléments de facilitation pour aller au bout de ces épreuves.
Alors écoute, je te propose que là on passe sur la phase questions-réponses parce que j'ai pas mal de questions qui sont arrivées. Alors j'en ai une, je vais commencer par celle-ci qui n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour, en tout cas qui parle de la GTMC, mais j'ai promis à Laurent, mon cher Laurent, de te poser la question. Donc je te lis la question, j'ai envie de me lancer sur la GTMC en Monster Gravel. Je sais que ce n'est pas du tout le vélo adapté. Je te parlerai de Laurent en aparté, c'est normal, c'est un cas spécifique. Mais je vais quand même le faire pour tester mes limites. Quelles sont, selon Thomas, les principales parties difficiles au niveau de l'isolement du parcours, ravitaillement et eau? J'ai prévu de pousser pas mal. Oui, parce qu'il faut que je te dise, il a une spécialité crevaison, défonçage de chaussures et arrachage de transmission en tout genre.
Oh ben ça arrive à tout le monde. J'ai moi-même arraché ma transmission dimanche matin lorsque je m'entraînais. J'ai tout cassé, donc ça peut arriver à tout le monde. Pour répondre à Laurent, le premier tiers, comme je l'avais mentionné dans le précédent podcast, que l'on a fait le premier tiers, donc entre Avallon et Clermont-Ferrand, reste relativement accessible avec quelques difficultés dans le Morvan. Et puis la partie sud de l'Auvergne et tout ce qui est gorge du Tarn, le plateau des Causses, une partie des Causses en tous les cas, et puis après les Cévennes, ce sera probablement très difficile en Monster Gravel. Je recommande en tous les cas de partir avec à minima, donc s'il est en 650, de partir avec des pneus qui soient à minima en 50. Après, bah, s'il a besoin de questions sur, enfin, de réponses.
Sur un Monster Gravel, 50 mm sur un Monster Gravel, c'est pas encore un Monster Gravel parce que maintenant les gravels qui embarquent du 50 sont de plus en plus légion. Et au contraire, sur un Monster, on va être plutôt sur 2.3, 2.4 minimum. Donc, je serais plus tenté de dire, ouais, 2.4 avec une suspension, parce que 50 c'est un gravel tout à fait traditionnel et c'est déjà ce qu'il a. Donc il est, je crois, de mémoire en 47 ou 48 René Hers sur son Chirou. Donc je faudrait préciser avec lui. Mais
non, mais il est certain,
vous,
Laurent,
je
que
vous mettrai en contact et vous vous débrouillerez.
Voilà, il est certain, Laurent, que tu vas au devant d'ennui au sud de Clermont-Ferrand. Bonne chance.
Oui, non. Non, mais il est auvergnat, j'ai oublié de te dire. Donc déjà des problèmes à la base, il en a plus d'un. Il est auvergnat, le pauvre. Donc, une question de Farid. Est-ce que la solitude impacte l'impact mentalement? Je te lis l'intégralité. Même si on peut téléphoner ou envoyer des messages à ses proches, est-ce que le fait d'être seul pendant plusieurs jours sur une épreuve de ce genre renforce le sentiment d'isolement et le risque de craquage? Mais surtout, est-ce qu'il y a des méthodes pour se préparer à ces moments-là, à supposer qu'on puisse les anticiper? Les questions sont claires dans ma tête, mais je ne sais pas si ça l'est autant quand je les écris. Eh bien, Farid, je te rassure. C'est très clair pour moi. Thomas, c'est clair pour
non,
toi
non, c'est très clair, ouais.
Bravo, bravo Farid. Farid. Bravo Farid.
Pour répondre à Farid, je pense que c'est très lié à la à chacun là, cet élément-là, parce que à titre personnel, moi j'ai aucun problème à passer une semaine seule sans voir personne. Là où certains, s'ils n'ont pas de contact social pendant une semaine, ils sont tétanisés, donc suivant en fait ce qui est important de regarder, et justement c'est de se poser les questions sur est-ce que je suis plutôt une tendance très très sociale, est-ce que demain si je pars tout seul en vacances pendant 5 jours sans être sur mon vélo, est-ce que je vais je t'ennuie, putain tu bailles.
Oh putain, c'est chiant ce que tu racontes. Je baille, je suis désolé, mais j'ai faim, j'ai pas mangé ce matin et là je baille. Donc, s'accumuler à la chiantitude de ce que tu racontes, c'est infernal.
Ah ouais, ça a l'air.
Je suis désolé de te le dire ici. Oh, putain.
Donc,
ah ouais.
Donc, non, Farid, cela dépend de chacun, et de son appréhension à la solitude. Après, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour moi se sentir seul? Je sais pas, une bonne carte puce pour appeler ses proches, mais je pense qu'il y a plein de gens qui appellent leurs proches sur leur pendant les épreuves d'ultra-endurance. Et puis on les voit déjà arriver, les trolls qui disent que c'est du soutien, que c'est du dopage, etc. Bon, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Je pense que moi j'appelle très régulièrement Pamela pendant les courses et pendant la GTMC et heureusement que elle est là pour je dirais recevoir certains de mes états d'âme et certains au contraire je pense ne passent des courses sans vraiment appeler personne donc je pense que chacun fonctionne doit fonctionner comme il a envie hein.
Bon alors dernière question de Alex parce que c'est pas vraiment une question parce qu'en fait on y a vraiment plus ou moins répondu tout au long de l'épisode, mais je te pose quand même la question pour repréciser certaines choses. Comment se prépare-t-on mentalement ? Fait-il des sorties spécifiques dans des conditions un peu extrêmes dans sa préparation ? Comment gère-t-il ses coups de mou pendant la course ? Donc, la dernière intervention, on y a répondu. Est-ce que tu fais des sorties vraiment spécifiques extrêmes ?
Alors ça, c'est
ressentir des sensations proches.
Ça, c'est un point qui est super important parce que le côté no pain, no gain... moi, je trouve que c'est du bullshit. Faut arrêter aujourd'hui. Se dire, aller chercher des conditions déplorables à l'entraînement, par exemple. Ok, la semaine prochaine, il y a de la pluie, il y a du vent, il fait froid. Je vais aller faire 6 heures comme ça pour me renforcer mentalement. Moi, je pense.
À part se cramer, c'est tout ce que tu fais. C'est tout ce qu'on fait, à part se cramer.
Je pense que c'est une connerie. Voilà, on est d'accord sur ce point-là.
Ouais.
Néanmoins, il faut quand même faire des séances et en tous les cas sortir sa zone de confort par moment pour forcément, lorsque on arrive sur une épreuve d'ultra-endurance, pas être surpris de se dire « Attends, là, je suis pas bien, j'ai un coup de mou, qu'est-ce que c'est ?» quoi. Il y a un entre-deux à trouver. Après, aller se crever mentalement à l'entraînement, c'est pas l'objectif. L'objectif à l'entraînement, c'est de tester, essayer des choses. Donc, ça peut être effectivement de se dire, bon, là, le temps, il n'est pas top. J'ai prévu quand même de m'entraîner. J'avais marqué dans mon agenda que j'allais m'entraîner. Bon, j'y vais quand même. Et je fais bonne figure et je mets en place la résilience dont on parlait et j'y vais quand même. Il y a un entre-deux à trouver dans cette pratique pour effectivement ne pas arriver cramé sur les épreuves parce que, comme on dit, en fait, l'objectif au départ d'un ultra, c'est d'arriver avec son réservoir physique et mental au maximum de ses capacités, puisque forcément, on va aller puiser dans ces ressources-là. Si déjà on arrive avec la moitié du réservoir, forcément, ce sera compliqué d'aller au bout. Et je pense qu'il y a aussi une autre fausse croyance qui est, et c'est un peu, je pense que c'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui communiquent dessus, qui est de se dire, pour faire de l'ultra, alors, il faut faire beaucoup d'heures sur le vélo. Je vais être très simple. Aujourd'hui, bon là, j'ai.
Je voulais t'en parler parce que là, je sais ce que tu vas me dire à l'instant. Je sais et je voulais te parler, te demander où tu en étais du polarisé.
Donc, à titre perso, bon, là, je viens de quitter mon job en CDI et je viens de me lancer en freelance, donc j'ai aussi plus de temps pour m'entraîner. Mais globalement, dans ma préparation, je fais jamais de sortie qui dépasse 8 heures parce que c'est inutile. Je vais faire 2-3 week-end shock ou 3-4 jours, un peu avec du volume. Mais globalement, si on regarde en 2022, je fais un tout petit peu moins que 10 000 km, je dois être 9 900 et des brouettes. Et dans ce total-là de kilomètres, il y a deux courses. Il y a donc la GTMC, le projet de la GTMC qui fait 1 400 km et l'Atlas qui en fait 1 200. Donc j'ai déjà 2 600 km sur ces 10 000 qui sont de la course. Le reste, c'est l'entraînement. Ça me fait quasiment donc 7 000 bornes d'entraînement. C'est par rapport à ce qui se pratique dans l'ultra-endurance et si on regarde ceux qui sont devant, c'est rien, c'est pas beaucoup finalement. Et donc,
c'est un tiers, ouais.
Ça veut bien dire qu'il y a Je suis pas un magicien et j'ai pas des compétences magiques dans mon sac à dos. C'est que un des éléments clés de la réussite, c'est savoir être régulier dans sa pratique. Moi, j'ai une pratique où je m'entraîne 6 jours sur 7, globalement, à peu près, entre 5 et 6 jours sur 7, toutes les semaines, avec un petit break par an, mais globalement, ça fait plusieurs années que je fonctionne comme ça, et ça, je pense que sur le long terme, ça porte ses fruits. Se dire, là, pour me préparer à un 1 000 km, je vais aller faire des week-ends de 10 heures, etc. Si t'es monsieur madame tout le monde, généralement, t'as un boulot qui fait entre 35 et 40 heures par semaine, t'as une vie de famille, t'as des amis, et tu fais d'autres choses de ta vie que de pédaler. Et donc, aller se cogner des sorties le week-end de 8 h, 10 h, généralement tu vas arriver lundi au bureau, tu seras fracassé, tu vas pas réussir à récupérer comme un athlète professionnel parce que tes contraintes seront pas les mêmes, parce que faut t'occuper des gamins avant d'aller au boulot, parce que, je sais pas, tes copains t'ont sollicité pour aller boire un coup. Enfin, il faut pas trop regarder ce que font les autres, il faut regarder ses contraintes et, en tous les cas, moi, à titre perso, dans ma pratique, je ne dépasse, je fais très peu de très longues sorties, je fais des petits blocs comme ça. Et tu parlais d'entraînement polarisé. Cette année, du coup, j'ai décidé vraiment de m'entraîner différemment. Sur la partie hivernale, j'ai fait très peu d'heures. C'est-à-dire que je faisais entre 5 heures et maximum 9 heures sur la plus grosse semaine de vélo par semaine. Ce qui est pas beaucoup, mais en moyenne, j'étais plus près des 6 heures par semaine que des 9. Et là, j'ai inversé la tendance sur le mois de février où j'ai fait quasiment 70 heures sur le vélo, donc un très gros mois avec beaucoup d'endurance, mais pendant l'hiver, peu d'heures, beaucoup d'intensité et maintenant beaucoup de volume et peu d'intensité. Et là, après, on repart dans un autre cycle un peu différent, mais s'entraîner pour de l'ultra, il y a 80%, c'est être régulier dans ses entraînements. Se préparer un petit peu dans sa tête, de se dire ok, comment est-ce que je peux traverser certaines de mes émotions, comment est-ce que ok, le parcours c'est 1 000 km, bah je sais pas, je vais anticiper peut-être les points de ravitaillement, je m'allège ma charge mentale comme ça, et après t'as 20% qui reste de l'entraînement physique, aller faire des intervalles, etc. Mais ça reste encore une, voilà, il y a plein d'autres choses à faire avant.
Il y a encore tout un folklore de l'ultra qui subsiste, mais qui est aussi inhérent à la jeunesse de la discipline, la relation à la compétition qu'on a en France, en tout cas pour l'ultra et le bikepacking, où il y a une énorme confusion que l'on voit de plus en plus, notamment sur les groupes bikepacking, où on voit beaucoup plus de gars dire bonjour, je viens faire du bikepacking en voyage et je vais dormir à l'hôtel tous les soirs. Bah ouais, ça s'appelle du cyclotourisme, comme depuis environ 150 ans. Donc il y a tout un amalgame qui se fait sur le volume et l'intensité. Bah, il y a beaucoup de choses à faire. Les week-end shocks, j'allais t'en parler, mais tu m'as devancé parce qu'encore une fois, c'est un des grands concepts de Guillaume Millet qui est d'avoir une régularité dans la semaine et de temps en temps d'avoir un week-end shock de 2-3 jours. Et c'est quelque chose que l'on va appliquer. Donc des volumes démentiels, des sorties de bâtard. Oui, de temps en temps, mais et tout à l'heure tu mentionnais une sortie de 6 heures sous la pluie. On peut aussi imaginer simplement une sortie de 6-8 heures, un petit peu plus difficile une fois de temps en temps. Et on n'est pas obligé de se mettre dans des situations de météo compliquées. Quant au côté, il y avait une sortie qui est prévue, je dois la faire pour faire bonne figure. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi et je ne suis pas du tout convaincu. Et je suis même sûr qu'il ne faut pas se forcer à aller faire une sortie si c'est uniquement pour faire bonne figure et dire je l'ai faite et se rassurer.
Non mais
Une bonne sortie, pour qu'elle soit efficace, il faut la...
je suis d'accord avec toi,
Vas-y.
je suis super d'accord avec toi. La nuance, je l'ai apportée effectivement, de se dire bon bah quand tu t'entraînes toutes les semaines, 6 jours sur 7, forcément il y a des séances dans la semaine que tu n'as pas envie d'aller faire. Ce qui est important à écouter, enfin et c'est là que la connaissance de son corps elle est prépondérante, c'est est-ce que là j'y vais ou j'y vais pas, en fait. Il y a des jours où moi j'ai pas envie de m'entraîner, puis bon bah j'y vais quand même parce que bon voilà, c'est pas forcément une bonne raison, ou on se dit allez, on se met un peu un coup de pied aux fesses, puis il y a des fois il faut aussi le savoir lâcher prise, et il y a des séances que je fais pas et je m'auto-flagelle pas en me disant ah non, tu l'as pas fait, ça va changer ta préparation. Non, non, des fois on a mieux fait
Non, ça change rien. C'est
d'aller
bien
cuisiner.
mieux des fois de s'arrêter que d'y aller.
Exactement.
Et le côté j'y vais pas, bah en fait, il est vite tranché. Si on trouve pas de bonnes raisons d'y aller, si on trouve pas ce petit côté allez, j'y vais quand même, ce petit coup de pied au cul, c'est que vraiment, faut pas y aller, faut pas avoir de regrets. Et il faut pas se forcer à y aller à tout prix. Là, je te rejoins sur la connaissance de soi. Quand c'est le cas et que j'ai pas envie d'y aller, je reconnais très bien les moments, les jours où c'est pas la peine d'y aller. Et je reconnais très bien les jours où je suis pas dans les bonnes dispositions. Et par contre, les jours où j'ai pas tout à fait envie d'y aller, mais je trouve la petite flamme, le petit coup de pied au cul pour y aller quand même. Et généralement, ça se passe bien. Mais quand vraiment ça va pas, tu vois, avant-hier, j'avais prévu une belle sortie. Bah non, j'avais encore mal aux jambes, j'avais pas envie. Donc, j'ai même pas fait une récup. Je me suis même pas dit, tiens, je vais faire une demi-heure sur le home trainer, faire tourner les jambes. Non, je fais rien, je m'en fous. C'est mieux. Et je fais autre chose. Et à la place, j'ai fait.
Mais se reposer, ça fait partie de l'entraînement. C'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est plus compliqué de se reposer que d'aller faire une séance difficile. C'est souvent comme ça. Pour ceux qui sont un peu vigorexiques.
L'autre. Le cliché du ouais, mais je m'entraîne pas et je vais tout perdre. Souviens-toi des ravages que ça a fait pendant le Covid, où tous les. Alors, je suis désolé, mais je vais encore me moquer, mais en même temps, ils prêtent le flanc à la moquerie. Tous les triathlètes ont fait dans leur slip parce qu'ils allaient perdre leur niveau et qu'ils se sont cramés la tronche sur Zwift. Et au moment où on a été libérés de nos obligations de confinement, la plupart étaient cramés et n'ont pas roulé dehors tout de suite parce qu'ils étaient raide mort cramés à avoir fait des 200 bornes sur Zwift et à s'être mesuré le sgeg sur Zwift et à s'être pris le melon à avoir fait surchauffer la casserole parce qu'ils voulaient pas perdre leur niveau avec du Zwift, avec de la PPG, avec des abdos, avec de la planche, que des trucs qui servent à rien. Donc au lieu de laisser un temps relax, maintenir le niveau avec une activité, et puis quand c'est le moment, on y retourne et c'est reparti vraiment. Il faut le lâcher prise cette obsession de la performance et du niveau, c'est des conneries. On peut partir une semaine en vacances et on perd pas son niveau. J'ai des mecs qui partent régulièrement en déplacement. Bah vas-y, pars une semaine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et au bout d'un moment, la première fois, ils me disent ouais, mais je vais perdre. T'inquiète. La deuxième fois, non, ça allait mieux. Et la troisième, ouais, c'est bon, je pars, relax. Je ferai un petit peu de vélo, de la marche à pied légère, relax. Je reviens, je reprends, peinard. Là, j'ai une nana, elle a fait un bloc d'entraînement juste avant de partir en Égypte, en vacances. Elle a fait un gros bloc sur 4 jours. Elle est partie en Égypte, elle a fait une sortie et elle a fait un bloc ce week-end de elle a fait 6h samedi et 9h dimanche. Et... Elle avait la poignée dans l'angle, hein. Pas de problème, on perd rien sur une semaine, faut se détendre. Ah, tu aimes bien ces expressions, la poignée dans l'angle.
La poignée dans l'angle, on va la noter celle-là.
Ouais. Ouais, ouais.
Non, mais après c'est le principe de surcompensation.
Tu peux la coller à l'expression se mettre la selle dans le cul. Hein. T'as le bec dans le cul, là c'est que t'as la poignée dans l'angle et tu roules sur la plaque.
Je croyais que tu devais proposer un format de podcast plus tenu. Plus sérieux, ça dérape.
Ah, mais j'y suis arrivé.
1h30.
Ouais, bah excuse-moi, j'ai tenu 1h30. Déjà, c'est un exploit. Généralement, je tiens pas 3 minutes.
Alors, c'est vrai que c'est pas mal.
Je trouve que j'ai tout à fait relevé. Et puis, faire état d'un jargon, d'une discipline, c'est pas déraper, c'est simplement étaler une culture, la culture d'une activité et son jargon tout à fait spécifique. Donc, voilà. Et si tu préfères qu'on parle des naturistes au Cap d'Agde, allons-y, hein, on va voir si ça dérape.
Je ne reviendrai pas sur ce sujet.
Non, mais assume Thomas. On a tous nos... Si la bonne raison de faire du vélo et de traverser la France était d'aller voir des meufs à poil, bon, bah, tu peux le dire, après tout. On n'est pas dans le jugement,
Je suis sûr qu'il y avait plus court à faire, parce qu'à mon avis, il doit bien y avoir un camping naturiste dans le Morvan, hein.
Bah écoute, c'est pas moi qui est rédacteur, qui suis rédacteur pour Komoot, sachant que voilà, ça, je pense que c'est toi qui es à même de vendre ta plateforme mieux que moi. Hein. Étant un ennemi juré de Komoot et étant convaincu que c'est une daube absolue en tout terrain.
Ouais, je suis pas là pour faire l'apologie de Komoot.
Sachant que tu n'es pas là pour en faire l'apologie ou vu que tu ne prends même pas la peine de le défendre, j'ai bien un peu raison quand même.
Moi, je suis convaincu que c'est une super application.
Cela dit, Cela dit, Thomas, je vais te laisser pour trois raisons. Je dois appeler Guillaume, qui est un grand fan de Ryan Le Garec. Je dois appeler Alexandra, une autre de mes meufs qui est blessée et qui trouve les ressources mentales d'aller rouler malgré une légère blessure. Et raison suprême, j'ai une vraie, véritable envie de pisser depuis trois quarts d'heure. Donc je vais te laisser pour ta minute de solitude. Thomas, on se rappelle plus tard pour faire le bilan de tout ça. Et en attendant, je te remercie. Comme toujours, c'est un immense plaisir d'avoir accès à ta pensée structurée, à ton élocution parfaite. Je constate que toi aussi, tu t'es contenu aussi dans la logorée et la diarrhée verbale. Donc bravo, je pense que tu as bien mérité tes dragibus. Donc Thomas, bravo, merci. Et à bientôt.
Merci, rappelle-moi, donc je ne ferme pas.
Minute de solitude. Non. Moi, je coupe mon écran, je coupe mon micro. Toi, tu parles et quand tu as fini, tu laisses faire. D'accord ?
Très bien. Allez.
Gros bisous, Thomas.
Bonne journée,
bientôt.
Richard. Salut.
Salut.
La minute de silence, encore une fois, merci déjà à ceux qui arriveront jusqu'ici. Donc comme on l'a dit, la prépa mentale, elle peut toucher tout le monde. Moi, j'y ai trouvé des réponses super intéressantes et que vous ayez besoin d'un accompagnement extérieur ou que ce soit votre curiosité personnelle via Internet ou des livres qui vous amènent sur ce chemin-là, je ne peux que vous recommander de développer cette partie-là. Et puis le principal, continuer à vous faire plaisir sur le vélo. Allez, bonne journée à tous.